C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Les prochains visiteurs qui affronteront le Canadien ici au Centre Bell, eh bien, ce sont les Penguins de Pittsburgh qui seront ici mercredi soir. Le match est à 19h. Ils jouent entre-temps demain soir contre les Coyotes en Arizona. Les Penguins sont tout juste derrière le Canadien au classement. Leur jeu de puissance ne décolle pas cette année. Et je me demande combien de fois encore on aura l'occasion de voir dans un même uniforme ici à Montréal, Malkin, Crosby et Christopher Le Temps. Avec nous ce soir aux amateurs, nul autre que le défenseur étoile des Penguins de Pittsburgh, Christopher Le Temps. Bien le bonsoir, Chris.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous, les Penguins de Pittsburgh, actuellement, alors qu'au classement, on sent que vous n'avez pas encore pris votre véritable envol? Deux matchs dans les prochains jours. Demain, les Coyotes chez vous à maison, puis mercredi, Montréal. Fait que comment ça se passe dans le vestiaire et pour les Penguins en cette jeune saison encore?
Ben, c'est sûr qu'on n'est pas, satisfait de nos résultats en ce moment. On savait que ça allait prendre une période d'adaptation avec toutes les acquisitions qu'on a faites durant l'été. On pensait pas que ça allait prendre autant de temps et d'être capable d'avoir de la constance, mais on travaille là-dessus. Puis je pense que quand on regarde le résultat des matchs qu'on a eus cette année, il y a beaucoup de matchs qui ont été perdus par un seul but. Donc, on est prêt, mais va falloir ajouter beaucoup plus de constance à notre jeu.
C'est vrai qu'il semble pas vous manquer grand-chose. Je regardais le comparable, par exemple, en termes de jeu de puissance. C'est un jeu de puissance cette année qui se cherche. Je sais qu'on a apporté des modifications. L'arrivée d'Eric Carlson a amené les instructeurs à distribuer le temps de glace différemment. Et là, en ce moment, là, le jeu de puissance est 0 en 37. Vous êtes parmi les derniers dans la Ligue, alors que l'an passé, quand même, vous aviez un pourcentage là, beaucoup plus près du seuil de la respectabilité. Vous étiez 14e dans la Ligue, au milieu de la Ligue, à 21,7. Qu'est-ce qui fonctionne pas en avantage numérique? Puis je remarque, Chris, aussi que toi aussi, ça t'a coûté du temps de glace en avantage numérique d'accueillir un nouveau joueur.
Oui, bien dans le fond, tu sais, cet été, on a eu des discussions, surtout avec Carl Dubus, qui était le nouveau directeur général. Et de rajouter un gars comme Eric Carlson, ça a amené une autre dimension. Puis en même temps, on le dit haut et fort qu'on n'est pas en train de vieillir. On n'aime pas ça, mais c'est la réalité de la chose. Puis les coachs essaient de distribuer le temps de glace pour qu'on ait du succès. Donc, en ce moment, je suis utilisé en désavantage numérique avec beaucoup de minutes, mais mon temps en avantage numérique a été diminué. Donc, ça change un peu la dynamique, mais en même temps, tu sais, quand tu fais partie d'une équipe, faut qu'à un certain point dans ta carrière, tu sois capable de réaliser que le bien de l'équipe passe avant les performances puis les statistiques personnelles. Donc, on est en train d'essayer des choses, on essaie plusieurs sortes d'unités. Mais je sais qu'à un certain point, comme tu as dit au début, on va prendre notre envol puis ça va bien.
Ce qui est intéressant là, c'est que toi, Gino et Sidney, vous êtes le trio qui a la plus grande longévité de tous les sports professionnels nord-américains là. T'es les trois membres d'un même noyau à avoir joué le plus longtemps ensemble. Je sais pas si tu le savais, Chris, mais vous devancez le célèbre trio des Yankees de Posada, Jeter et Rivera qui ont joué 17 années ensemble. Vous en êtes à une 18e. Est-ce que si, en plus de votre titre de joueur que je disais de vous trois, que vous êtes aussi assistant directeur généraux, puis je m'explique, c'est que des gars qui ont le tatou, qui ont le logo des Pingouins là, imprimé sur le cœur, comme vous trois qui avez gagné trois coupes Stanley. Je veux dire, il y a rien qui se fait dans une équipe sans, j'imagine, votre input. Est-ce que je me trompe?
Ben, c'est sûr que durant notre carrière, on a eu plusieurs directeurs généraux, plusieurs coachs. Les gens dans ces positions-là ont souvent fait passer leur message un peu par nous. Si je veux, j'essaie de le dire d'une façon qui fait du sens.
Oui, oui.
Dans le fond, il y a beaucoup de fois qu'ils ont demandé par rapport à notre expérience dans la Ligue, côtoyer certains joueurs. Exemple, moi, j'ai côtoyé plusieurs Québécois pendant l'été, pendant des entraînements. Donc, les directeurs généraux, les coachs avaient des questions souvent, mais poser certaines questions, mais je pense pas qu'ils se sont uniquement basés sur notre qu'est-ce qu'on avait à dire, mais c'est sûr que quand tu étais longtemps, tu sais un peu qu'est-ce qui marche dans une équipe, qu'est-ce qui marche moins. Donc, on est capable d'amener certains détails, certains conseils qu'on peut donner.
Ben oui, vous avez le pouls de l'équipe, vous avez le pouls de la ligue, vous savez comment ça fonctionne, vous êtes encore très performant, même, ça fait drôle à dire, là, mais dans la fleur de l'âge en termes de hockey ou de sport professionnel, on se comprend bien. Moi, j'ai de l'extérieur, Chris, je dois te dire que j'ai quand même été surpris que les Pingouins gardent les trois, il y a une historique derrière ça, là, c'est difficile de passer à autre chose, je le comprends, mais que vous ajoutiez un gars comme Erik Karlsson, et la précédente question m'amène à celle-ci, c'est qu'on comprend que ça avait l'approbation du vestiaire et probablement de vous trois, dont toi, même si vous avez des attributs semblables, Eric et toi, offensivement surtout, et défensivement peut-être davantage dans ton cas. Là.
Ben, c'est sûr que il y a des endroits que l'ajout d'un joueur comme ça pourrait être un petit peu plus difficile. Puis pourquoi je dis ça, c'est que dans notre équipe, on est trois. Puis maintenant, on peut parler de Ganson, on peut parler de Ross, que ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous. Mais on a quand même une identité qui est déjà faite. Donc, quand tu amènes un joueur de ce calibre-là, de cette prestance-là, ces gars-là peuvent pas vraiment arriver puis dicter comment les choses vont se passer. Ils vont s'adapter à qu'est-ce qui a été enseigné, si on peut dire, par les trois vétérans dont Sidney. Puis les choses fonctionnent d'une certaine manière. Donc, quand un gars comme Erik Karlsson arrive avec nous autres, dans le passé, on a fait l'acquisition, mettons, d'un Marianossa, il y a déjà des belles valeurs, puis tout est déjà bien inculqué dans notre équipe. Donc, ça peut pas venir froisser, changer toute la dynamique. Mais si un joueur comme ça arrive dans une équipe qui a pas vraiment des vétérans implantés, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était pas vraiment un côté dans la chambre, côté attitude et tout ça, c'était pas vraiment un problème. La chose qu'il faut faire en ce moment, c'est vraiment de tout tomber sur la même page puis d'être capable de former une belle chimie. Là.
Ouais. Qu'est-ce que tu sens qui vous manque justement là pour franchir, prendre votre envol? Là, c'était petit quelque chose qui vous manque pour que la chimie vous permette de décoller, Chris?
Ben, je pense qu'on va se dire, ça nous prendrait un but en power play. Ça, c'est,
ouais, hein?
Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin. Puis, c'est souvent, je l'ai expliqué avec des gars, d'habitude, tes meilleurs joueurs sont tes joueurs sur le power play. Puis, ces gars-là, à chaque soir, vont te donner la chance de gagner un match. Puis, des fois, pendant le match, que ce soit au début, ou un peu plus tard dans le match, ces gars-là, ils n'ont pas un bon feeling, ils touchent pas assez à la rondelle, puis le power play devient, dans le fond, un petit momentum qu'ils peuvent bâtir, puis de retrouver leur game, puis de bien se sentir. Puis en ce moment, on n'est pas capable de marquer, on a de la misère avec notre power play, puis ça peut affecter mentalement pour les chiffres d'après, puis les fins de période, ces choses-là. Donc, un but sur notre avantage numérique, d'essayer de débloquer de ce côté-là, va donner un gros boost à nos meilleurs joueurs qui vont, par la suite, avoir, selon moi, une meilleure prestance à 5 contre 5.
De l'entendre de la bouche d'un joueur qui a autant de millage en avantage numérique et en toute situation, c'est de la musique à mes oreilles, parce que souvent les gens, les amateurs, vont frustrer de voir, exemple, le jeu de puissance du Canadien de Montréal, qui connaît également des ratés, c'est peut-être ça qui a coûté le match d'hier. Puis tu sais, quand on regarde en théorie sur papier, Chris, votre alignement, tu sais, c'est comme si c'était un automatisme. Hey, comment veux-tu avoir un jeu de puissance qui marche pas avec le temps? Malkin, Carlson, Crosby, Gensel, tu sais, on se dit que ça se peut pas qu'un jeu de puissance marche pas avec ces gars-là. Mais pourtant, ça peut arriver même avec une équipe aussi bien nantie. C'est quoi la recette d'un jeu de puissance qui marche? Puis on comprend bien l'incidence que ça a confiance de ces athlètes-là dans le reste du jeu par la suite, mais strictement sur le jeu de puissance, qu'est-ce qui ne marche pas en ce moment?
Ben, moi, je crois vraiment qu'un jeu de puissance n'est pas basé sur tes meilleurs joueurs. Ton jeu de puissance est basé sur le rôle des joueurs mis en place. Qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Donc, je peux donner un exemple. tu as un joueur comme Crosby ou un joueur comme Nick Suzuki, que c'est des playmakers, des gars qui aiment ça avoir la rondelle sur leur palette et faire les jeux, tu peux pas en avoir trois pareils. Tu peux pas avoir juste des gars qui veulent shooter la rondelle.
Mm-hmm.
Tu peux pas juste avoir des gars qui veulent. Tu sais, il faut vraiment un beau
la complémentarité.
Et voilà. Fait, c'est un défenseur qui aime ça shooter, mais t'as besoin de deux playmakers. Si t'as des bons joueurs en avant des filets, t'as besoin peut-être de deux shooters puis un playmaker. Donc c'est vraiment ça prend un bon mix puis que les gars connaissent leur rôle. Puis dans certains moments, dans des équipes, il y a peut-être des équipes qui ont un peu plus de misère. Ben t'essaies de comme un peu réduire les comment on peut dire les périodes que tu te questionnes sur la glace. Quel est mon rôle? T'essaies de dire ok, regarde. Nick Suzuki, c'est le gars qui va contrôler la rondelle. Moi, je suis Matheson, je vais shooter. Puis Cole Caulfield, je vais shooter. Puis en avant du filet, n'importe c'est qui, que ce soit Anderson, ben, mon rôle, moi, c'est de voiler le gardien de but puis d'être capable d'atteindre tous les rebonds puis les rondelles autour du filet. Une fois que ça, c'est compris, ben, c'est beaucoup plus simple d'exécuter parce que de la minute que les joueurs commencent à se poser des questions puis d'essayer de faire plaisir à un tel, ce qui arrive, c'est que fige, ton exécution est moins bonne, est moins rapide. Donc, moi, je pense vraiment qu'un bon power play, c'est un mix de certains attributs.
Ben, Chris, c'est très, très généreux comme réponse. Honnêtement, là, quiconque joue au hockey en ce moment, même J3 juniors majeurs qui sont à l'écoute de ça et les amateurs du Canadien, j'ai l'impression d'entendre un futur coach, mais je pense que c'est encore du bon hockey à nous offrir et à offrir aux Pingouins. Fait que je te parlerai pas de ça trop vite. Mais il reste que, je veux dire, ce degré de connaissance-là, cette capacité de l'exprimer me fait dire que tu peux être un bon pédagogue. Je termine sur une note plus personnelle, Christopher. On a tous à distance quand même été bouleversés, là, t'as eu plusieurs ennuis, plusieurs aventures là où ta santé a été compromise, des incidents de nature cardiaque, t'as perdu ton père également. Bref, des années qui t'ont fragilisé, mais qui n'ont en rien affecté ton désir de revenir à la compétition. Comment c'est pour toi de retourner à la compétition à ce niveau-là, avec, oui, bien sûr, le feu vert des médecins? Est-ce que tu réussis à vraiment te dissocier de tout ce que t'as vécu dans le passé, puis être totalement en sécurité puis en confiance que tout va toujours bien aller à chacun de tes efforts?
Oui, ben en fait, du côté de ma santé, je suis en pleine confiance. Je crains pas pour que ce soit mon cœur ou tout ce qui s'est passé avec mes AVC, mais par rapport à tout ça, dans le fond, j'ai vécu vraiment une période quand même assez sombre l'an passé. J'ai été affecté mentalement énormément, mais à un certain point, ma femme a été la première à me dire hey, « Chris, je pense que le retour à ta routine, d'être sur la patinoire à chaque jour, d'aller jouer des matchs de hockey, je pense que ça va être le meilleur remède pour vraiment te sentir toi-même puis de d'être la personne que t'es, le passionné que t'es. » Donc ça a été ça dans le fond qui m'a aidé à passer au travers parce que
wow.
quand j'étais à la maison, ça devenait difficile à certains moments. Les enfants étaient là, ça allait bien, mais de la minute qu'il y avait des petits temps morts, ça devenait un petit peu plus difficile. Même que c'est juste d'aller à l'aréna, mon père était toujours à l'aréna avec mon fils. Qu'on soit pas là, ça a été quand même assez dur. Donc le fait que ma femme m'a dit de retourner au travail puis de faire ce qui me passionne, ce que j'aime, ça fait vraiment en sorte que ça fait un dans ta tête, tu sais, tu viens à comme un échappatoire, si on peut dire. T'es tellement focus sur le travail que ça fait en sorte que ça bloque tout qu'est-ce que le cerveau veut nous amener puis nous bouleverser. Donc Ça a été ça un peu le remède, là, si on peut appeler ça comme ça.
Fait que pas loin de la patinoire, le bonheur est jamais bien loin, mon cher Christopher. Puis quel sentiment ça doit être aussi de te sentir appuyé ainsi par ta partenaire de vie. C'est c'est ça. J'imagine, tu sais, tu te confies, tu nous dis un peu comment tu l'as senti, mais tu sais, à distance, on se dit, hey, je sais pas comment il a fait passer à travers ça. Ben, on a une partie de la réponse ce soir avec nous.
Ouais, non, ça c'est on dirait que je le cacherai pas, on dirait que quand tu as plusieurs expériences comme ça qui t'arrivent, quand tu es dans ce moment-là, on dirait que la vie veut pas te lâcher, mais il faut garder un certain positivisme entre les deux oreilles, puis d'être capable de voir certaines situations avec un angle différent, si on peut dire. Puis ma femme sait très bien que quand je mets mes deux pieds sur une patinoire, ça fait en sorte que je peux avoir la tête légère, si on peut dire. Ouais.
En terminant, Chris, est-ce que c'est encore spécial de venir jouer à Montréal? Puis je sais pas combien de fois encore on va vous voir les trois vétérans ensemble jouer avec les Pingouins. Puis je veux pas évoquer que ça pourrait être une dernière visite, mais je vais applaudir quand tu vas embarquer sur la patinoire mercredi. Je te le dis du haut de mon pas sur la passerelle.
Merci. Ouais, ben c'est toujours spécial. J'ai été un petit bonhomme qui allait au Forum dans le temps, puis après ça au Centre Bell, mais c'est encore, ben j'espère qu'ils n'ont pas changé cette année, mais tu sais, c'est encore la même musique quand les joueurs embarquent. Quand tu étais un petit Québécois, puis tu as eu la chance de voir les Canadiens, tu sais, des frissons que t'as qu'on dirait qu'ils peuvent pas vraiment... Tu peux pas vraiment partir parce que c'est un endroit spécial, c'est ce que tu as grandi en admirant les anciens joueurs qui ont joué là, donc c'est toujours spécial. Je pense que même il y a certains joueurs dans mon équipe, même s'ils sont pas québécois, c'est spécial pour eux aussi.
Ah oui? Là,
c'est quand même le Canadien, parce que les Canadiens, c'est quand même c'est pas une équipe ordinaire, là, c'est l'équipe avec la plus le plus d'histoire dans la Ligue nationale. Donc, c'est moindrement que tu étais passionné de hockey à un jeune âge, tu savais qui était le Canadien de Montréal.
C'est sûr.
Donc, je sais que dans mon équipe, il y a quelques joueurs qui trouvent ça spécial quand même d'aller jouer là.
Est-ce qu'on peut dire que Sidney en fait partie, sans te mettre des mots dans la bouche à sa place?
Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, sa volonté de gagner au Centre Bell est toujours plus grande qu'ailleurs, on dirait.
Aïe, aïe, aïe. J'ai bien hâte de voir ça, ce match-là, Christopher. Merci beaucoup de cette très belle entrevue. Je l'apprécie énormément. Puis bonne chance dans vos espoirs de relancer votre saison. Puis on aura un échantillon pas plus tard que mercredi contre les Canadiens. Merci beaucoup, Christopher.
Merci à toi.
Merci. Christopher Letang, des Pingouins de Pittsburgh qui affrontent les Coyotes demain et le Canadien à Montréal, ici même à la maison, mercredi soir.
Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Eh bien, imaginez-vous donc que les Leafs de Toronto ont créé l'égalité en toute fin de match. Alors, on vous tient au courant, on s'en va en prolongation de ce côté. Et sait-on jamais, peut-être que Tavares pourra compter le but gagnant contre son ancienne équipe, lui qui est tué à chaque présence sur la glace. D'autre part, le sujet de conversation de la fin de semaine, je regardais ça sur les différents forums, c'est le sujet qui ralliait le plus de commentaires sur ma page également. C'était la signature du contrat de Shohei Ohtani avec les Dodgers de Los Angeles. 700 millions de dollars sur 10 ans. Et j'étais très curieux de savoir ce que Claude Raymond en pensait. Il est avec nous ce soir. Bien le bonsoir, Claude.
Oui, bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien, mon cher Claude.
Ça me fait penser à mon premier contrat.
Ben, c'est ça, je me disais, c'était la même affaire. Il y avait peut-être la virgule, t'as pas la même place, Claude.
Ben, non, il n'y avait pas de virgule. Il y en a 165 par mois, là. 165 $ par mois, pas des mille, ni des millions, là.
Hey, comment t'as réagi quand t'as vu ça, 700 millions sur 10 ans, puis là, on apprend qu'il va toucher juste 2 millions par année, puis les 680 autres millions, il va être touché après sa carrière?
Ouais, mais c'est, écoute, moi, je savais que c'était pour, ben, je pensais que ça pourrait être à l'entour de 500 millions. Ensuite, 600 millions parce que il y avait plusieurs clubs qui couraient après, là. Mais, 700, là, c'est fort. Hey, ça fait 438 000 $ par match.
Hey, ben, t'imagines?
Toi, ça fait 100 000 $ par présence au bâton, là.
Écoute, ça fait 33 564 $. C'est plus cher que l'avocat le plus cher que t'as au Québec, ça, Claude.
Mais, regarde, s'il prend pas beaucoup d'argent, là. Tu sais, Bobby Bonilla, quand il était avec les Mets de New York, je pense que la dernière année, c'est 79 ou 80. Là, il avait signé une entente parce que les Mets voulaient signer un gros joueur. Là, il a pris une entente, puis à tous les ans, à sa fête, le 1er août, il reçoit 1,5 million. Puis je pense qu'il y en a encore pour 10 ans à recevoir ça. Fait que ça, tu sais, ça se compare un petit peu à ça. Fait que Shohei Ohtani, là, s'il prend pas plus d'argent que ça à l'heure actuelle, pour les 10 prochaines années, imagine-toi, après sa carrière terminée, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir 200 millions par année, quoi. Aucune idée.
Est-ce que c'est le joueur pour qui tu aurais payé le plus cher de tous les joueurs actifs du baseball majeur, considérant qu'en santé, il lance, qu'en plus, il frappe une machine à frapper? Considères-tu que c'est le gars qui mérite le plus gros salaire du baseball majeur en ce moment?
Oui, ben peut-être pas en ce moment
à cause de la blessure.
À cause de l'opération Tommy John, là, mais s'il revient comme il était avant, comme lanceur, ça vaut vraiment plus que n'importe qui d'autre. Plus, il a de la puissance, il vole des buts, il mène pour la puissance au bâton, il mène pour la présence sur les buts. Tu sais, il a vraiment, vraiment fait une saison extraordinaire, puis je pense qu'il a manqué un petit peu plus qu'un mois à la fin de l'année. Lui, il avait des chances de battre le record, de se rendre à au moins 60 coups de circuit, là.
C'est littéralement Babe Ruth des temps modernes, Claude.
Ah, ben Babe Ruth, t'as pas aussi bon que ça, là.
Non, Ohtani, c'est un autre niveau.
Ben, regarde, Babe Ruth, il courait pas comme ça, puis c'était pas un bon voltigeur, puis il lançait pas comme lui, tu sais. Moi, je l'ai pas vu, là, mais tu sais, d'après ce que j'entends, puis d'après ce que j'ai lu, Babe Ruth, c'est bon, mais il a pas lancé longtemps, puis quand il est arrivé avec les Yankees, ils l'ont arrêté de lancer, tandis que lui, il continue, puis tu sais, moi, ce gars-là, il frappe des doubles à tonnes, il frappe des circuits à tous les champs. Je veux pas enlever rien à Babe Ruth, mais au point de vue athlète, là, je pense que Ohtani est meilleur que Babe Ruth. Là.
On est ailleurs. Les Blue Jays étaient dans la course, semble-t-il, qu'ils étaient prêts à aller à tout près de 100 millions. Bref, probablement que c'était peut-être tout décidé d'avance, mais considères-tu que pour avoir la meilleure équipe, les Blue Jays vont être mieux équipés pour avoir la meilleure équipe possible en se tournant vers d'autres joueurs ou que Ohtani aurait fait des Jays une équipe beaucoup plus redoutable? C'est un mal pour un bien qu'il ne l'ait pas signé, si je résume ma pensée.
Ben, hey, regarde, nous autres, les Expos, là, on disait on va le faire signer, lui. Tu sais, tous les bons joueurs qui étaient joueurs autonomes, on disait qu'on était pour les signer. Voyons donc, c'est un bluff, ça, pour nous autres, les Expos. Je ne sais pas si les Blue Jays, c'est un bluff aussi, là. Mais en tout cas, si lui avait été là, ça aurait été le championnat presque automatique, parce que Bichette puis Guerrero serait pris plus au sérieux, puis tu sais, parce que ce gars-là, Ohtani, c'est un modèle extraordinaire. Il est toujours souriant, tu sais, il est beau, il est grand, il est fort. En tout cas,
non, c'est si un athlète qui a l'air parfait.
Avait signé, il allait gagner le championnat, ça c'est sûr. Puis les Dodgers, ils vont gagner le championnat, c'est sûr. Naturellement, avec Mookie puis avec Freeman là, dans le line-up, puis t'en as d'autres très bons joueurs avec eux autres, là. Ça va être tout un trio à traverser, ça, ces trois-là ensemble, là.
Aïe, aïe, aïe. Alors, donc, même au plan baseball, au-delà de tout l'aspect marketing, puis je le sais, c'est parce que, tu sais, dans le fond, je m'appuie un peu sur le fait que lui et Trout, deux des meilleurs joueurs du baseball, sont dans la même équipe depuis quelques années, puis les Angels, ça n'a pas décollé. Je sais que ça prend plus que deux bons joueurs, et c'est pour ça que t'as fait allusion aux autres bons joueurs des Jays, puis aux autres bons joueurs des Dodgers, où là, on a déjà une partie de la recette, puis lui, il vient la compléter, dans le fond, là.
Ouais, mais regarde, les Angels, ils ont signé un Rondon, joueur de troisième but des Nationals de Washington. Ils ont donné une trentaine de millions par année, puis je pense dans les trois dernières années, il a même pas joué 100 matchs. Il est toujours blessé, tu sais. C'est une malchance qu'ils ont eue de, parce que le gars est toujours blessé, mais si Rondon avait été en bonne santé, ça aurait été beaucoup mieux pour eux autres. Mais là, tu peux pas gagner là, juste avec deux vedettes, surtout si tu divises toute ta masse salariale à deux joueurs là. Tu peux pas faire ça, vraiment. Là.
Mais j'aime ça que tu aies mentionné le fait, tu sais, que dans le fond, que l'éthique de travail de Shohei Ohtani aurait amené tout le monde vers le haut à Toronto. Tu trouves qu'ça manque un petit peu de sérieux là, au niveau de certains petits détails que Vladimir, on espère le voir atteindre un autre niveau, sans aucun doute, là, n'est-ce pas?
Oui, mais regarde, il y a deux ans, il s'était pris en main, il avait perdu une vingtaine de livres, 20-25 livres. Il a eu une saison extraordinaire. L'année passée, il revient au camp d'entraînement, il était encore il était là avec un surplus de poids. Il va falloir qu'il se prenne en main vraiment, puis il va, d'après moi, il faut qu'il change son attitude sur le banc, parce que ce gars-là, il sur le banc, là, il est comme un clown. Tu sais, c'est lui qui est le meneur de claque, là.
Ouais.
Et c'est pas ça que les Blue Jays demandent de lui, mais comment tu fais pour lui inculquer ça, puis lui demander de changer son style tout de suite, là? Je ne sais pas, mais il va falloir qu'il se prenne en main parce que c'est tout un talent qu'il a là, puis moi je dis qu'il gaspille son talent un petit peu, là.
Eh bien, j'espère qu'il va s'en prendre en main. Surtout qu'il a déjà, comme tu l'as dit, il a déjà fait l'exercice de revenir en meilleure forme. Puis je pense que même qu'au point où peut-être que les Blue Jays se demandent s'ils vont vraiment le garder à long terme, s'il lui apporte pas des changements à sa façon d'aborder sa carrière.
Ben, ça pourrait arriver, ça aussi. Ben, tu sais, il allait très bien jusqu'au match des étoiles. Puis là, il a participé au concours de coups de circuit. Puis là, ça a tout
dérégler son swing?
Exactement. Puis après ça, ben on aurait dit qu'il était plus capable de retrouver son élan. Puis il manquait de sérieux d'après moi, là. Parce que je le regarde sur le banc, là. Il est pas sérieux. Puis au premier but, il parle à tout le monde. Puis il a du plaisir quand il y a quelqu'un au premier but pour jaser avec. Puis tu sais, c'est pas de même que tu gagnes des matchs, là. Parce que cette équipe-là, les Blue Jays, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Puis c'est lui et Bichette sont les leaders. Puis avant, c'était Guerrero qui était le meilleur. Mais là, Bichette est passé en avant de lui cette année. Là.
Mm-hmm.
Bichette est bon aussi. Là.
Ben oui, il est bon, certain qu'il est bon. Ben
il
oui.
Est très bon défensivement. Puis, tu sais, Guerrero, il va falloir qu'il se prenne en main. Puis si on pense que Ohtani aurait fait un changement, il aurait fait un gros, gros changement parce que Ohtani, c'est sérieux son affaire. Il est toujours souriant. C'est un joueur d'équipe. Puis même quand les officiels donnent une mauvaise décision contre lui, il fait son petit salut avec un petit sourire en disant c'est correct, je vais me reprendre, tu sais.
Il est beau avoir joué, Claude, on va se le dire. C'est un prince sur le terrain.
Moi, là, tous les soirs, là, quand les Angels jouaient avec Trout puis lui, je regardais les matchs jusqu'à 1h, 1h30 du matin parce que je voulais pas manquer une présence de Ohtani. Non, c'est vrai.
Ben, je le sais que c'est vrai, Claude. Tu penses-tu que je suis surpris que tu regardes du baseball jusqu'à 1h30, 2h du matin? Pas une seconde. Je te crois 100 000 à l'heure. Puis ma question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que tu regardes jusqu'aux petites heures quand il n'y a pas de baseball?
Ah ben, il y a toujours du baseball sur la côte du Pacifique à tous les soirs. Fait que je regarde du baseball à tous les soirs. Ben là, je m'ennuie, là, parce qu'il n'y en a pas.
Ben oui.
Là, regarde, ils jouent des. Ils font jouer des matchs de la série mondiale. Voyons donc. On sait qui a gagné, là.
Surtout avec la mémoire.
Ça changera pas.
Surtout avec la mémoire que t'as, tu te feras pas déjouer avec un vieux match d'archives. Il n'y a aucun danger. Mais quand on n'est pas en saison de baseball, Claude, regardes-tu. Est-ce que tu tournes vers le hockey ou un autre sport ou tu...
Le hockey. Là, à l'heure actuelle, je regarde du football. Là, il y a deux matchs. Il y a Miami qui joue, les Dolphins.
Ben oui.
Contre Tennessee, puis les Giants de New York contre mes Packers de Green Bay.
Ah, tes Packers à part de ça. Je savais pas que t'avais ton club.
Depuis 61 que c'est mes Packers, moi.
Comment ça? Pourquoi les Packers?
Ben, parce que quand j'ai joué à Milwaukee, les Packers, ils jouaient dans ce temps-là la moitié de leur match à Milwaukee, puis la moitié à Green Bay.
Ah.
Mais les joueurs, ils demeuraient à Milwaukee, puis on était chum avec tout ce monde-là, là, Paul Harning, puis Jim Taylor, puis tous les joueurs, là, ils fréquentaient les mêmes restaurants que nous autres, puis la plupart restaient aux mêmes hôtels que nous autres. Non, c'était le terrain des Packers à Milwaukee.
Wow, quel... Écoute, à chaque conversation qu'on a, il y a toujours quelque chose pour me surprendre, dites-le.
Ben, c'est ça qu'il faut faire aussi, il faut pas tout donner en même temps.
T'as raison, mais c'était...
Mario, oui. Je suis rendu à 86 ans, j'en ai encore en masse, là.
Ben, parle-moi de ça. Aïe.
Parce que si jamais on va prendre un verre ensemble, tu peux nous en prendre d'autres.
Ah oui, parce qu'il y a des affaires qui se comptent plus autour d'un verre qu'en on, hein. Ça, c'est... Tu sais, ils font ça dans les podcasts maintenant de plus en plus, mais nous autres, ouais, ça serait
non,
très
moi,
agréable.
Je fais pas ça, mais moi, ce que tu entends, ce que tu vois, puis ce que tu dis dans un vestiaire, ça reste là.
Oui, hein. Ça, c'est. Sauf de temps en temps, entre amis, on peut en lâcher une coupe de bonne.
Ouais, une temps en temps.
Une temps en temps. Fait que, mais c'est vraiment bon. Je sais pas si. Moi, mon club cette année, c'est des. Ben, tu vas dire cette année. Moi, je suis pas tout le temps le même club. Je suis un peu volage par rapport à mes clubs de football. Ça dépend de la saveur du moment, mais j'aime bien les 49ers avec Purdy.
Ah, ben oui.
Hein? C'est le fun à voir aller, ça.
Et hey, puis Bossa,
oui.
Qui joue dans la ligue. Savais-tu que eux autres, ils venaient passer leurs étés dans les bois francs, là?
Non.
Parce qu'ils ont de la parenté dans le bout des bois francs, là, en Beauce.
Ben
Beauce.
Voyons donc, toi, je savais pas
ben
ça.
Oui. Ben oui. Les deux frères, ils passaient leurs étés pas Saint-Georges, en tout cas.
Ben, on va faire notre enquête là-dessus, Claude, ça va.
Parce qu'il me semble que leur mère ou leur père a déjà vécu au Canada. Ah, tu vérifieras ça?
Ben, écoute, c'est sûr que c'est...
des joueurs à part de ça, là.
Ben, j'imagine des joueurs étoiles. Les frères Beauce, donc, viendraient les étés dans les bois francs ou en Beauce. L'enquête est lancée. Oui. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui peuvent nous donner des indications, des précisions là-dessus au 9-8-9-8-5. Aïe. Ben, Claude, tu peux bien rire.
Non, ben, enfin, il n'y a pas juste le baseball dans la vie, là, c'est...
T'as raison. T'as toujours.
Là, j'ai hâte là, de voir le tournoi junior là, de hockey. Là.
Le championnat du monde de hockey junior,
oui,
mais
oui,
hein?
Oui.
Ben
ah,
oui.
Oui, oui. Ça s'en vient. Là, les joueurs, je pense que les joueurs ils se réunissaient à compter d'hier, hein?
Oui, le camp a commencé aujourd'hui, en fait, sur glace. Probablement que les gars sont tous arrivés hier. D'ailleurs, Stéphane Leroux sera avec nous demain pour nous en parler. Puis on espère qu'on a une couple de joueurs qui vont faire l'équipe. On aime toujours ça quand on a une couple de Québécois là-dedans, Claude, hein?
Puis on a un bon de Saint-Jean aussi, là.
Ah, c'est qui, lequel?
Noah Warren.
Ben oui, hey, tout un joueur, Noah. Je te connais tous, c'est sûr que tu l'as déjà rencontré à ton tournoi, probablement, ou tu l'as aidé avec ta fondation.
C'est lui qui est notre athlète de l'année du pont Claude Raymond, là.
Aïe, c'est bon. Hey, Claude, c'est extraordinaire. Ton épouse va toujours aussi bien?
Ça va très bien, merci. Oui.
C'est extraordinaire.
Oui.
Écoute, juste d'entendre ton sourire là et ta bonne humeur contagieuse. Petite jeunesse, va. Merci beaucoup.
Hey Mario.
Quoi?
Avant de se quitter, là, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde qui t'écoute tous les soirs, là.
Ben, c'est
toi
vraiment
aussi.
Ben, merci, Claude. On te souhaite de très joyeuses fêtes. T'es,
okay.
T'es un amour. Il y avait nos amours, puis toi, t'es un amour.
OK. Ben, merci. L'apprécie beaucoup.
Bye, Claude. Merci beaucoup.
Okay.
À bientôt, j'espère. Bye-bye.
Bye.
Un grand parmi des grands. Claude Raymond, viens après la pause.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Stéphane White, salut Stéphane.
Salut Mario.
La rotation se poursuit malgré les deux départs consécutifs de Samuel Montembeau la semaine dernière. Et qu'as-tu pensé? Bon ben Primo, c'est sûr que c'était exceptionnel sa performance samedi.
Ah Primo, quand il y avait plus. Il n'y avait pas juste le fait de jouer un match. Il y avait beaucoup à gagner dans ce match-là parce que on se rappelle tous de sa dernière période fatale contre les Panthers où que, ça avait été très difficile. Et puis, c'est quoi qui s'est passé après? C'est que le monde a recommencé déjà à douter de Primo. Là, c'était parti. Bon, on savait que Primo, c'est pas un joueur de la Ligue nationale. Primo, il y a une grosse faiblesse de la mitaine. Primo aussi, Primo ça. Tout ça, malgré le fait qu'il y avait eu 5 bons départs. Donc, pour lui, c'était doublement important de rebondir, mais surtout d'effacer des doutes du monde, de beaucoup.
Il y a toujours à se reprouver d'une certaine
Exactement.
Façon.
Exactement. Donc, il y avait beaucoup, il y avait gros à gagner. Et puis, wow, il était excellent. Écoute, seulement dans la première période, j'avais noté, j'ai 5 gros arrêts qu'il a fait. 5 gros arrêts où que si... Il n'aurait pas été aussi bon que ça en première période où on a donné 17 lancés, mais il n'y avait plus de match après la première période. Et puis, après ça, tout ça pour dire qu'il a fini qu'une dizaine de gros arrêts. Ça, 10 gros arrêts, là, c'est beaucoup, Mario. Souvent, quand on dit un gardien de but, il a fait 2-3 gros arrêts dans un match, c'est beaucoup. Lui, il en a fait une dizaine. Donc, 48 lancés. C'est des shots en tacle, comme dirait un ancien défenseur. Mais tout ça pour dire que si Caden n'est pas aussi dominant, il n'y a pas de match. Les deux points, c'est Caden Primo, point final. Autre chose que j'ai aimé de Caden Primo, c'est que il a eu l'air confiant et surtout en contrôle de ses émotions tout le match. Même quand que c'est devenu 2-2. C'était 2-0 canadien. C'est devenu 2 buts rapides en troisième période. Je l'ai jamais vu ébranler. Ça, j'ai aimé ça. Parce qu'il aurait pu déjà dire, oh mon Dieu, pas encore, pas comme le dernier match.
À l'œil, là, avec ton expertise, du regard que tu as habitué de porter sur les gardiens que tu as coachés, puis de toute ta vie, ça se sent-tu vite à l'œil si
je l'ai ébranlé? Je l'ai vu tout de suite qu'il n'était pas ébranlé, comme j'avais vu qu'il était ébranlé contre les Panthers. Et puis même lui, il l'avait avoué après
en
le match
plus.
Qu'il avait été ébranlé, qu'il avait commencé à douter. Je l'ai vu tellement solide au niveau des émotions, au niveau de être en contrôle. Jamais trop high, jamais trop rouleau. Honnêtement, là, il m'a impressionné ce match-là. Et puis.
T'as-tu montré quelque chose qu'il t'avait jamais montré à ce niveau-là?
Ben, il m'a montré du caractère. C'est quelque chose qu'il m'a jamais montré avant parce qu'il n'a jamais eu à le montrer, tu sais, pour dire, gars, faut que je bande
pas. Rebondis, là.
Exactement.
Ouais, ouais.
Donc, ça, c'est important. Et puis, tout ça pour dire que, tu sais, le Primo, il y a quoi? Il y a 6 départs jusqu'à la date. Pour moi, dans 6 départs, il y a eu une période que c'était difficile. Le reste, là, c'est assez solide. Donc, moi, il me prouve de plus en plus, à chaque départ, il me prouve que c'est un gardien de but de la Ligue nationale. Et, oubliez pas, je me répète depuis 3 ans, 24 ans seulement, 24 ans, il y a tellement de gardiens de but qui commencent à 26, 27, et je l'ai tout le temps, personne, je m'en ai jamais caché. Dans le temps qu'on avait Caden Primo dans notre filiale, quand j'étais Canadien, notre plan, c'était de le faire jouer au moins 200 matchs en ligne américaine. Et puis, je disais souvent à Marc Bergevin, j'ai dit, Marc, Primo me fait tellement penser à Corey Crawford de par son gabarit, de par sa technique, de par sa façon qu'il joue et par son caractère où ce que il n'y a pas grand-chose qui le dérange, peu importe. Et puis, de la façon qu'il analysait les matchs, il me faisait tout me faisait passer à Corey Crawford. Et puis Corey Crawford, nous autres, notre plan, c'était, il a joué 250 matchs dans la Ligue américaine. Et Corey Crawford, on l'a amené à Chicago à 26 ans. Et il a eu toute une carrière après ça. Gagné 2 Coupes Stanley, joué pour l'équipe Canada au championnat du monde. Il a eu toute une carrière. Mais il est arrivé à 26 ans, on a pris notre temps. Et c'était ça le plan avec Caden Primo. Donc, Caden a 24 ans.
Il fit encore dans le plan.
Il est même en avance. D'une coupe de match, d'une coupe d'année peut-être. Donc, moi, là, Caden Primo, il a pas à me convaincre. Je le sais depuis toujours que c'est un gardien de but de la Ligue nationale. Maintenant, il va se passer à quoi avec le fameux ménage à trois? C'est encore une fois, on se répète, l'amour juste de patience. Ça peut, le Canadien attend le bon moment pour probablement passer Jake Allen. Et puis, si c'est pas cette semaine, ça peut être dans deux semaines. Sinon, ça sera dans deux mois. Mais à un moment donné, il va y avoir on espère. À un moment donné, il va y avoir un club qui va être dans le trouble. Qui va avoir besoin d'un gardien de but d'expérience. Donc, à un moment donné, on espère que ça va arriver. Puis c'est là que le Canadien va pouvoir dire, hey, j'en ai un.
Mm-hmm. En effet, parce que Jake, hier, bon, bien que lui, c'est quoi, 7 ou 8 défaites en ligne. Bon, il peut pas être blâmé directement pour chacune d'entre elles, puis pas hier, très certainement pas hier. C'est l'attaque à 5 hier qui a raté vraiment l'opportunité de mettre le Canadien dans le match, ou en tout cas de le pousser plus loin.
Exact. J'écoutais nos intervenants avant, en m'en venant ici à la station, Mario, puis totalement raison. C'est les avantages numériques qui ont fait la différence. Nashville, il est 0 et 1 en 2, et nous, on est 0 en 5. Donc, c'est là que le match s'est joué. Mais Jake Allen, wow, quelle performance! Et, quoi, 30 quelques lancés. Jake Allen, exactement, 32 lancés, exactement, 2 buts, a été très solide. Et ce que j'ai aimé aussi de Jake, c'est que pauvre Jake, cette défaite en ligne, ça devient pesant pour un gardien.
Ça doit, hein?
Ça devient très pesant, mais il se concentre sur les bonnes choses. J'ai aimé son commentaire après le match, quand on lui a fait remarquer que dans les 7 défaites, le Canadien va marquer seulement 14 buts. Et puis, mais Jake, j'ai aimé son commentaire, il dit, garde, moi là, c'est pas ma job de marquer des buts. Moi, je me concentre sur arrêter les rondelles, puis j'ai pas le contrôle sur les buts pauvres. Je sais qu'éventuellement, mes coéquipiers vont en marquer des buts pour moi. L'instant, pour l'instant, je dois garder mon focus sur une chose, c'est d'arrêter les rondelles, et c'est tout ce que je peux contrôler. C'est un commentaire que j'adore. Puis ça, c'est du vrai Jake Allen, un gars mature, un vétéran, qui analyse les choses de la bonne façon.
Et ma foi, oui, et c'est ça, tout le monde l'encense. Martin McGuire ne cesse de nous le répéter, lui qui compose avec lui sur une base régulière dans les entrevues d'après-pratique, d'après-match, qu'il considère vraiment comme un des top pros là, dans tous les aspects, juste sur la glace, mais hors glace.
Mais ça, c'est un futur coach pour moi. Il pense comme un coach, il parle comme un coach, il analyse comme un coach. Il est intelligent, le gars, dans ses commentaires. Et puis, pour moi, c'est un futur coach.
Les deux matchs dans l'ensemble, donc, au-delà des gardiens de but, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu ton attention? S'il y avait une chose, je vais te lancer sur une piste. Trouves-tu que le Canadien, beaucoup de gens m'écrivaient après le match samedi, puis dimanche encore, j'en peux plus de voir le Canadien se faire brasser comme ça. C'est comme si les amateurs, ils prenaient ça personnel quand le Canadien se fait brasser. Moi, je réponds, je dis, ouais, mais ils ont gagné le match. Le club qui brasse, c'est le club qui est frustré. J'aime pas voir le Canadien se faire brasser puis se faire brasser, mais quand vous exprimez ça, les auditeurs, puis précisez votre pensée de 9-8-9-8-5, vous voulez quoi? Qu'on envoie une escouade pour les tapocher? C'est quoi, t'as gagné le match. C'est les frustrés, c'est ceux qui bûchent.
Premièrement, là, on a joué contre les Sabres, c'est une équipe qui est grosse. En partant par Nate Thompson. Et puis, ils ont 4 défenseurs de 6 et 3 et plus. C'est une équipe qui est grosse. Malgré ça, j'ai pas senti le Canadien physiquement abusé. Oui, il y a eu beaucoup d'escarmouches, mais les gars se tenaient. Il y a pas personne qui a reculé. Je dis pas qu'ils ont eu le dessus physiquement, mais ils ont pas reculé. Et les gars se sont tenus. Ça, j'ai aimé ça. On dit souvent la toughness en unité. Là, au lieu d'avoir un gars qui fait la règle sur le jeu, on y va toute la gang ensemble. Puis c'est ce que j'ai vu. Et la même chose contre Nashville. Donc, je pense pas qu'on ait été intimidés. Et puis ça m'a pas dérangé. Ce qui me dérange le plus avec le Canadien, et ça,
ça c'est va pas la première fois que tu le dis, je pense. Vas-tu parler? Vas-y. Je veux pas anticiper. Qu'est-ce que t'allais dire?
Bon, c'est sûr que les unités spéciales, mais encore une fois, on accorde encore beaucoup trop de lancers. 48 contre Buffalo, 32 le lendemain contre une équipe qui va jouer eux aussi la veille.
Soirée tranquille. Tranquille, il a donné juste 32 tirs, c'était fort.
Exactement. et en passant, j'ai vu une stat aujourd'hui. Jake Allen et Ilya Sorokin, le gardien de but des Islanders, c'est les deux gardiens de but qui reçoivent en moyenne le plus de lancers par match dans toute la Ligue nationale. Fait que ça, là, ça veut dire quelque chose. Ça m'a fatigué. Mais encore, la chose qui me fatigue le plus, c'est l'inconstance des performances. Des fois, dans un même match, des fois on est bon, des fois on est terrible. Et on en revient 15 minutes plus tard, on est bon. À un moment donné, l'autre période, on est terrible. On revient à une autre période, on est bon.
C'est du yo-yo émotif.
Il y a tellement d'inconstance dans chaque match où des fois, on a des mauvais débuts de partie. Et on revient dans le match en deuxième, ou des fois c'est le contraire, on a des bons débuts de partie, et en deuxième on s'écroule. C'est l'inconstance. Et ça, c'est quoi? C'est souvent la marque des équipes qui sont jeunes puis qui manquent d'expérience. Et puis ça, c'est la grosse affaire. Je l'ai vécu avec les Blackhawks, où on pouvait être incroyable, battre la meilleure équipe de la Ligue quand on a recommencé notre reconstruction.
Ça s'est foiré le lendemain ou
dans un même match.
Mais c'est quoi l'affaire, les gars? Penses-tu qu'ils sont bons quand ils n'ont joué une bonne?
Ça, c'est souvent un manque de maturité. On a une équipe jeune, on en gagne 2-3 en ligne. Oh là là, ça va être facile. À soir, on joue contre Nashville, une équipe qu'on peut battre n'importe quand, une équipe à notre portée. Et c'est là les problèmes. Mais malheureusement, je pense que c'est normal parce qu'on manque de maturité, on manque d'expérience. Mais c'est quelque chose qui me fatigue, l'inconstance de cette équipe-là, d'un match à l'autre et même d'une période à l'autre. Ça, c'est plate.
Ben, Martin Saint-Louis le répète souvent, là, qu'on court après la constance.
On court après, avec raison, puis il court encore.
Il n'y a aucun doute.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.